Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission culturelle. Une émission culturelle qui ne sera pas consacrée à 1989. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces commémorations ces derniers temps, mais je vous propose aujourd'hui de parler peinture. Jessie Little est peintre, c'est du haut de son atelier perché sur les toits de Žižkov à Prague qu'il donne naissance à ses toiles. Des toiles qui évoquent tour à tour des vitraux et on hésite parfois en les regardant à se dire, ne serait-ce pas un miroir de la réalité brisé en mille morceaux, recomposé, mais où sont encore visibles les brisures, les failles, les cicatrices. C'est de cela et de bien d'autres choses encore qu'il sera question dans l'émission de cette semaine. Jessie Little est née en 1969 à New York, mais il a passé une grande partie de son enfance en France, où son père, l'écrivain Robert Little, s'est installé avec sa famille dans les années 70. D'où le français parfait de Jessie Little, qui maîtrise également le tchèque. Débarqué à Prague en interrail il y a une quinzaine d'années, il a fini par s'y installer définitivement après quelques allers-retours hésitants. Alors je suis allée à la rencontre de Jessie Little dans son atelier et j'ai commencé par lui demander s'il avait toujours eu un crayon ou un pinceau dans la main.
Je suis sûr que mes parents diraient autre chose, bien sûr. Ils commenceraient à dire que j'étais toujours en train de dessiner, blablabla. Non, moi j'ai toujours aimé dessiner, mais quand je retrouve mes vieux dessins, pas d'enfants parce qu'eux sont géniaux, bien sûr, mais d'adolescents, disons, c'est de la daube comme tout le monde. Mais j'étais à l'université aux États-Unis et j'ai fait un an entre-temps, ma troisième année, je suis allé aux Beaux-Arts à Paris. Par hasard, mais pas par hasard, bien sûr, parce que ça m'intéressait toujours. Et voilà, et c'est cette année-là qui m'a complètement détruit, bien sûr. N'ayant jamais peint de ma vie, c'était en cours de morpho aux Beaux-Arts, justement, où c'était un amphithéâtre énorme, où il y avait des mecs devant moi qui dessinaient à main libre des trucs mais incroyables, des chevaux, enfin hallucinant. Moi j'étais pas capable de tenir un crayon presque. Et puis il a commencé à montrer un beau jour des diapos de Egon Schiele. Et voilà, c'était fini pour moi. Je suis devenu peintre sans avoir jamais touché un pinceau de ma vie, sauf enfant. Donc je suis rentré aux États-Unis, tout excité. J'ai commencé à prendre des cours de peinture à l'université en disant je vais être peintre. C'était génial, ça aussi. Mon premier painting class à l'université, où tout le monde arrivait avec la première peinture de l'année pour la critique. Et moi, parce que tout d'un coup, j'étais peintre, bien sûr. Et la prof était géniale, parce que bien sûr, c'était la prof qui est devenue ma prof pendant toute cette année, une des trois qui nous ont formés. Qui n'a rien dit, qui a fait toutes les autres toiles pendant ce cours de critique. Et à la fin, et moi j'attendais, genre, très orgueilleux. Elle m'a complètement, mais cassé en 36 morceaux, c'était génial. On en reparlait pendant des années et des années, parce que, à mon avis, elle a dû comprendre très vite. Donc elle savait que certains parmi les étudiants étaient partis pour faire ça. Donc elle n'allait pas non plus être très très, disons, gentille, comme elle pourrait l'être avec les autres. J'avoue que pendant des années, ça m'est resté, mais gentiment, pas de mauvais feeling.
Comme quoi, il y a quand même des moments déterminants. Alors ça et Schiele auparavant, bon, c'est une transition toute trouvée, puisque j'allais te dire que tes toiles me font beaucoup penser, en tout cas certaines, évidemment, à Schiele, ne serait-ce que par un espèce de mélange à la fois d'expressionnisme et de cubisme à la fois. C'est ce qu'on retrouve en tout cas chez Schiele.
Je prends ça comme un grand compliment, bien sûr. Schiele, c'est tout dans sa ligne, et sa ligne est incomparable.
Même parfois aussi, j'allais dire, il y a quelques-uns qui m'ont fait penser aussi, même à Klimt, je pensais notamment à tes tableaux aquatiques, ceux où on voit des femmes dans l'eau, en fait. Ça me fait penser à des espèces de nymphes, en fait, qu'on voit par exemple dans certains tableaux Klimt, qui était quand même le maître de Schiele, on le sait.
Le maître de Schiele, mais pas vraiment. En fait, il était le précurseur de Schiele, bien sûr. Tu sais ce qu'il a dit à Schiele quand Schiele, à 17 ans, est allé le voir avec son portfolio de dessins. Il a dit, maître, am I any good? Est-ce que je suis bon? Et Klimt a regardé ses dessins et a dit beaucoup trop bon, avec apparemment un dégoût presque, parce qu'il était Schiele depuis l'âge de 4 ans, il y a des dessins qu'il a fait à 4 ans, il était incroyable. Je crois que parmi tous, autant les Picasso, les Klimt, les Giacometti sont tous incroyables et ont tous leur sauce. Il n'y en a pas un qui a une ligne comme celle de Schiele, qui a une écriture, c'est pas du travail de dessin, que ce soit académique ou pas académique. Par exemple, j'ai vu des dessins de Klimt au musée à New York, le Nawa Museum, où il y a plein de dessins qui sont des dessins qu'il a fait pour l'étoile qu'on connaît. Et il y en a qui sont assez nuls. C'est des dessins où il cherche sa forme, il cherche son truc, et tu vois toutes les fautes qu'il fait, et bien sûr, il les a vues lui aussi, mais alors que Schiele, bien sûr, apparemment, il foutait tout à la poubelle, tout ce qui n'était pas parfait. Ça, on savait aussi, mais en même temps, à mon avis, c'était différent. C'était pas des trucs bancals, ça marchait pas, c'est juste, il avait une écriture, c'était pas un mec qui recopiait des formes, des angles, des machins. Il y avait vraiment une sorte de fluidité, d'une écriture. Il y a des moments dans ses dessins où il y a rien de juste, mais entre les lignes qui se croisent, c'est juste. C'est-à-dire que tout reste en mouvement et c'est assez incroyable.
Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi finalement que tu fais de la peinture figurative. J'allais dire, parfois on se dit, mon Dieu, pendant des années, on s'en a imaginé que la peinture figurative, c'était ringard, qu'il n'y avait que l'abstrait qui existait. Ce en quoi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Il y a sans doute beaucoup de personnes qui sont sans doute d'accord avec moi.
Pas d'accord. C'est pas la figure humaine, mais c'est le sujet. Je ne suis pas vraiment capable de faire ça à partir de rien, c'est-à-dire de me l'imaginer. J'ai pas envie, en plus, peut-être par rapport à ce que j'ai appris, mais peut-être par rapport à ce dont j'ai envie. L'art abstrait, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup, bien sûr. Je fais une toile abstraite, enfin, quote-unquote abstraite.
Tu en as quand même quelques-unes.
J'en ai quelques-unes. C'est une sorte d'exercice. J'en fais une ou deux, enfin, une plutôt, par an. Comme ça, pour voir ce que ça donne et ce que ça fait. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Elles me plaisent puisqu'elles ont survécu à mon autocensure, bien sûr, mais c'est tellement arbitraire. C'est tellement arbitraire dans le sens où c'est n'importe quoi. Et ça reste n'importe quoi. Alors que pour moi, ce qui est intéressant dans ce qui est figuratif, encore quote un quoi, c'est-à-dire la forme, que ce soit une personne, une chose, un objet,
un paysage,
un endroit, n'importe quoi, c'est ce qui est dans la forme.
Alors, il y a une caractéristique, notamment dans tes toiles, hein, c'est pas toutes, mais une grande majorité. Il y a donc cette espèce de manière de quadriller, comme s'il y avait un espèce de tamis, un espèce de filtre de ce que tu représentes. Alors, tout est un peu prétexte à ce quadrillage. Ça peut être des mâts, des pylônes, des arbres, etc. Est-ce que c'est une manière...
Tu as remarqué ?
Oui, je suis très observatrice. Est-ce que c'est une manière d'ordonner ou de désordonner le monde ?
Ah, très bonne tes questions. Encore, je pourrais essayer de répéter ce qu'ont dit les autres. Il y a une très bonne copine qui a écrit une monographie dans mon seul catalogue, en fait, qui avait beaucoup de choses à dire là-dessus, que j'ai trouvé intéressante. Je sais pas si ça ordonne ou si ça désordonne. Je serais obligé d'essayer de comprendre si je trouve le monde désordonné, que je suis en train de l'ordonner, ou plutôt le contraire, c'est une affaire complexe ou ça. Mais en même temps, oui, je suis ordonné dans certaines choses, c'est-à-dire qu'il me faut une sorte de, comment on dit en français, la chenille, un échafaudage. C'est ça, c'est un échafaudage pour essayer de comprendre les trucs qui restent bien sûr en mouvement, que ce soit une photo ou un modèle. Une personne, un arbre dans le vent, ça ne s'arrête jamais de bouger, même si c'est en photo. Surtout avec la peinture. En dessin, c'est différent, bien sûr, parce que t'as une ligne, mais en peinture, qui reste une matière, comme une sculpture, tu peux pas le...
Il faut
justement,
dire les choses.
Si j'avais pu les dire, je serais peut-être écrivain, non?
C'était une de mes questions, d'ailleurs, celle-là. Ça t'a jamais tenté d'écrire?
Si, sûrement, j'ai toujours dit dans 20 ans j'écrirai mon livre, mais voilà, c'est 20 ans après, j'ai toujours pas vraiment envie. C'est une de mes réponses quand je rencontre des gens qui me demandent ce que je fais, que j'ai dit que je suis peintre, et qui me disent toujours, bien sûr, qu'est-ce que tu fais comme peinture? Au fil des années, j'en ai eu marre, et j'ai donc découvert cette super réponse. Si j'étais capable de te le dire, je serais écrivain, mon ami. Et bien sûr, avec un père écrivain, un frère écrivain, c'était peut-être pas la bonne réponse non plus, mais...
Il va falloir quand même expliquer pour les auditeurs, pour le coup, que ton père, c'est l'écrivain Robert Little, qui est le grand nom du roman d'espionnage américain. Ton frère, c'est Jonathan Little, qui est quand même le prix Goncourt 2006 en France, pour les bienveillantes, voilà, qui est sorti récemment en plus en tchèque. Est-ce que tu es un lecteur critique ou admiratif des œuvres de...
Admiratif des deux, c'est sûr. J'adore la lecture. Je trouve ça très marrant, d'un côté, de parler de tous les deux en même temps, parce que c'était toujours mon père, l'écrivain, bien sûr. Enfin, j'ai toujours adoré la plupart des livres de mon père. Je suis sûr que je serais un peu plus critique de certains, mais en général, c'est non seulement un écrivain fantastique du côté de la matière, un craftsman.
Un artisan.
Un artisan. Mais ses livres sont absolument, enfin, à mon avis, bien sûr, géniaux. Et mon frère, bien sûr, qui me court, tout ça. Mais oui, j'ai lu Les Bienveillantes aussi. Ça m'a pris 5 semaines de travail.
Acharné.
Acharné. Parce que je lis moins en français, bien sûr. Donc j'ai moins l'habitude. Et bien sûr, qu'est-ce que je peux dire? C'est un grand livre.
Ton père vient de sortir un livre qui s'appelle L'Hirondelle avant l'orage,
ouais.
Qui en anglais s'appelle The Stolen Epigram, ouais. Et qui est sorti alors en France, je crois, en mars 2009. C'est un tableau de toi qui illustre l'édition américaine. Alors ouais. Déjà, c'est plutôt sympathique. Pourquoi pas l'édition française?
C'était une idée de mon père. C'est une toile qui appartient à mon père, que je lui ai offert pour son 60e anniversaire, je crois, qu'il adore. Et c'était son idée. Mais bien sûr, en même temps, quand il publie un livre, la maison d'édition, les maisons d'édition restent les derniers juges de. C'est à eux de vendre leurs produits. Donc il m'a demandé si je serais d'accord pour que lui demande de son côté, parce qu'il avait beaucoup envie. Il trouvait que cette toile apparemment répondait au thème de son livre. Et donc il a demandé, je crois qu'il a commencé avec les Américains, parce que c'était les premiers. Incroyable, mais vrai, ils ont dit oui. Donc voilà, ils ont fait ça, ils l'ont fait très bien justement. Lui aussi a adoré et il l'a proposé aux Français, aux Allemands je crois. Mais il ne propose, il ne demande pas plus. Et quand ils disent non, bien sûr, il va pas insister.
Comment est-ce qu'on vit en tant que peintre? Comment est-ce qu'on vend ces toiles?
On vit à Prague. Où on peut vivre pendant une semaine en bouffant au resto en 1993 et en buvant à l'œil et en offrant à tous ses copains pour moins de $50.
Non, mais je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour un petit peu se faire faire un peu son trou? Quels sont un peu les débouchés?
Aucune idée, franchement.
C'est du bouche à oreille?
Ce n'est que du bouche à oreille. J'ai l'impression de pas même savoir. J'ai eu beaucoup de chance, bien sûr. Tant bien que mal, j'arrive à en vivre. Mais ça fait partie du truc. Mais en même temps, j'ai pas l'impression de savoir comment j'ai fait, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose sauf d'être là et de faire mon truc. J'ai essayé, bien sûr, au début de taper le pavé, comme on dit en anglais, de faire les galeries avec son book machin. Très rapidement, c'est pas une question d'avoir été découragé, mais plus question de temps. Enfin, soit on est businessman et soit on est PR man, soit on fait de la peinture. Et à la fin, c'était, j'en avais marre, quoi, de faire le tour de, apparemment, ce qu'il faut faire en tant que peintre, de faire le tour des galeries et tout ça. Alors que, en restant à la maison et en faisant son boulot, ça vient une fois tous les 36 du mois, mais ça vient.
Cette semaine était donc le peintre américain Jesse Little. Évidemment, si vous voulez voir à quoi ressemblent ses toiles, je vous recommande vivement d'aller sur son site internet www.nosuchpaintings.com. Évidemment, tous ces renseignements, vous pouvez également les retrouver sur notre site internet au www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.